de l'édit de Nantes. La dernière fois, nous avions vu comment Louis XIV, par l'édit de Fontainebleau, avait donc aboli l'édit de Nantes en 1685, et quelles étaient les principales conséquences de cette révocation. Premièrement donc, aucun autre culte que le culte catholique n'était autorisé sur tout le territoire français. Donc, tous les temples protestants devaient être démolis. Les pasteurs dont les enfants, c'est-à-dire les pasteurs, avaient 15 jours pour quitter la France s'ils ne souhaitaient pas se convertir au catholicisme. Ceux dont les enfants étaient majeurs devaient laisser leurs enfants derrière eux. Ce qui fait qu'un certain nombre, pour ne pas quitter les enfants, se sont convertis au catholicisme. Les autres, tous les autres, tous ceux qui n'étaient pas pasteurs, devaient impérativement se convertir au catholicisme. Il n'était pas question pour eux de quitter le territoire français. Ceux qui le faisaient à leur risque et péril, c'est-à-dire essentiellement, ils étaient passibles de galères. Les nouveaux convertis étaient étroitement surveillés, en sorte que le curé pointait attentivement s'ils étaient, assidus aux messes, etc., etc. Et malgré cela, nous allons voir, n'est-ce pas, qu'environ 100 000 protestants ont réussi à s'échapper, chercher dans ce qu'on appelle on appelait le refuge, les pays du refuge, c'est-à-dire la Suisse, la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique et l'Afrique du Sud essentiellement. Bon, nous aurons l'occasion de revoir comment, notamment, la grandeur de la Prusse sera le fait des huguenots protestants. Et notamment, c'est pratiquement eux qui ont développé le Brandebourg et la ville de Berlin en particulier. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que nombreux sont les généraux allemands jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale qui portaient des noms français. C'était les descendants des huguenots émigrés au moment de la révocation des édits de Nantes. Je veux dire que là aussi, dans ce domaine-là, Louis XIV avait réussi un coup de génie, préparant pour l'avenir des lendemains qui déchantaient pour la France. En Alsace, qui était donc objet de litiges entre l'Allemagne et la France déjà à cette époque-là, qui était donc redevenue française, les protestants ont été autorisés. Donc c'est une seule exception que le roi a faite, comme le fera d'ailleurs la République française en 1914, quand l'Alsace redeviendra française, on lui laissera jusqu'à jour le statut concordataire. Mais la cathédrale de Strasbourg, qui était devenue une cathédrale protestante, comme la cathédrale de Genève, n'est-ce pas, redevient cathédrale catholique jusqu'à jour. La révocation, donc, ici, prend vraiment le protestantisme au dépourvu. Pardon, je vous ai dit une erreur tout à l'heure. Les pasteurs devaient laisser derrière eux leurs enfants qui avaient plus de 7 ans, et non pas ceux qui étaient majeurs. On considérait qu'ils étaient majeurs à 7 ans, à l'âge de 7 ans. Vous voyez ça, ce que ça pouvait représenter. Donc il y a eu un cinquième des pasteurs qui ont abjuré, grosso modo, à cause de notamment de cette clause-là, n'est-ce pas, qui faisait que... Alors, il ne restait plus rien, on peut dire, même de ce qui était la base du traité de Westphalie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la devotio privata, c'est-à-dire dans les pays où un culte était interdit, soit protestant dans les pays catholiques, soit catholique dans les pays protestants, si le culte se faisait en privé, donc dans le cadre familial, le pouvoir fermait les yeux. Même ça, Louis XIV ne l'accepte pas pour la France. Et dès cette année, il y a des dragonnades. L'année suivante, en 1686, il y a des dragonnades en Lorraine, à Metz en particulier, malgré les clauses du traité d'annexion, qui était donc une annexe du traité de Westphalie, qui prévoyait justement que dans tous les pays qui venaient d'être conquis, Alsace-Lorraine notamment, eh bien, le culte protestant resterait licite malgré l'édit de Nantes qui était entré en vigueur une année auparavant. Donc, Louis XIV n'en tient pas compte. Il viole la parole qu'il a donnée et qu'il a contresignée, et il envoie les dragons. Dragonnade, on signale en l'année 86, donc on signale des dragonnades également à Rouen, et en même temps des déportations. Les rebelles sont notamment déportés aux Antilles. Et c'est ainsi qu'il y a, l'année 86, des nouvelles conversions au catholicisme qui sont enregistrées. Mais c'est aussi l'année 86 qu'ont lieu ce qu'on va appeler les premières assemblées du désert, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction, n'est-ce pas, du peuple protestant pris par surprise, mais qui va s'organiser pour maintenir clandestinement le culte. Bien évidemment, les assemblées du désert sont extrêmement risquées. Si elles sont découvertes, c'est la peine de mort pour celui qui préside le culte et des peines diverses de galères, d'emprisonnement pour les femmes dans des couvents, d'enlèvement d'enfants, voire, comme nous l'avons vu, de déportation, n'est-ce pas, qui peuvent s'abattre sur les participants à la réunion, donc interdite. Il y a donc, dans ces années-là, un afflux forcément dans les prisons du royaume. Et c'est ainsi que des hôpitaux seront transformés en prisons, parce qu'on n'a plus de place pour mettre les prisonniers. Par exemple, l'hôpital général de Paris va comprendre, outre ses malades, 7 000 prisonniers. Les cas les plus dramatiques sont ceux des enfants et des jeunes. Des très jeunes enfants, dès l'âge de 7 ans, nous l'avons vu, sont séparés de leurs parents. Un grand nombre d'entre eux meurent, soit des mauvais traitements, soit ensuite de problèmes affectifs, n'est-ce pas? Les deux réalités certainement se conjuguant. D'autres, on signale des cas d'autres enfants qui deviennent fous. Hein. Donc, situation particulièrement tragique. Qui est d'ailleurs le fait des religieux et des religieuses qui s'occupent de ces enfants et qui, comme le font les tortionnaires communistes, par exemple, pendant le goulag, n'est-ce pas, font tout pour briser psychiquement leurs victimes, leurs jeunes victimes. Alors, les corrections les plus dures, et quand on dit les corrections les plus dures, ça veut dire le fouet, ça veut dire le cachot, ça veut dire les privations de nourriture. Donc ces choses terribles, n'est-ce pas, peuvent alterner avec des moments où, au contraire, l'enfant est très bien traité, on lui parle avec une grande douceur, une grande gentillesse, etc. Et puis brusquement, n'est-ce pas, sans aucune explication, on repasse, n'est-ce pas, de la douceur à la rigueur, et ainsi de suite, pour complètement désorienter, déboussoler l'enfant jusqu'à ce qu'il craque, quoi. Alors il craque soit parce qu'il se convertit, soit parce qu'il devient fou ou il meurt. Il n'y a qu'une de ces trois solutions, ou alors il y a aussi ceux qui tiennent ferme malgré tout. Alors, les enfants, donc, certains d'entre eux vont se convertir et ils deviendront d'ardents propagandistes de la religion catholique, parfois même beaucoup plus zélés que d'autres catholiques de naissance, ayant été si bien endoctrinés. Par exemple, Fénelon, l'évêque de Cambrai, n'est-ce pas, écrivain français de grand talent, a pris en main, n'est-ce pas, des maisons où on s'occupait justement d'éduquer des enfants qui étaient revenus à la religion catholique de force, des jeunes filles aussi, n'est-ce pas. Et Fénelon, donc, lui, on doit lui rendre cette justice, c'est que lui préconisait uniquement l'usage de la douceur dans ce domaine-là. D'autres ne seront pas aussi délicats, loin s'en faut. Et alors, ce qui est le plus étonnant dans toute cette affaire, quand on voit les méthodes qui étaient employées, c'est le nombre élevé d'enfants qui résistent, d'enfants et de jeunes qui résistent, envers et contre tout, n'est-ce pas, et qui ne plient pas. C'est un bel hommage, si vous voulez, à rendre à la piété familiale qui avait su inculquer dès le plus jeune âge dans l'esprit de ces jeunes enfants une foi authentique qui leur a permis de résister dans des conditions, on peut imaginer ce que ça peut être pour un jeune ou pour un enfant en bas âge. Pascal, le grand philosophe, n'est-ce pas, va être particulièrement traumatisé par ce traitement des enfants en particulier. Et il aura cette remarque ironique, n'est-ce pas, disant que, somme toute, le travail de ces convertisseurs consiste à abêtir les gens. Et ça, il aura cette devise cinglante, n'est-ce pas, à l'encontre des jésuites, « Abêtissez-vous hein, », ce sera son mot. Bon, il était féroce, mais il était juste. Alors, du côté protestant, la surprise passée, je disais tout à l'heure, on tente de s'organiser. Et alors, la tête du protestantisme français à cette période-là est l'avocat Claude Brousson, qui déjà avait été intervenu en tant qu'avocat qu'il était, il n'était pas pasteur, sinon il aurait été expulsé, en 83, déjà donc 2 ans avant la révocation de l'édit de Nantes, Claude Brousson était intervenu devant le Parlement de Toulouse sur la base justement de l'édit de Nantes pour en dénoncer les nombreuses violations dont les protestants étaient les victimes. C'est lui qui avait proclamé et préconisé, nous l'avons vu la dernière fois, le 27 juin, de célébrer dans toute la France un culte en plein air, en Guyenne, en Poitou, en Saintonge, dans tous les pays en majorité protestante, donc on avait refusé. Mais le Sud, le Dauphiné, le Vivarais, les Cévennes, avaient donc répondu à cet appel de Brousson. Nous avons vu comment ça s'était assez mal passé. Et Brousson donc préconisait de former un protestantisme clandestin, ce qu'il appelait le camp de l'Éternel. Et il préconisait même éventuellement une révolte armée de plusieurs milliers d'hommes qui étaient destinés à militer contre l'oppression résistant par les armes. Il faudra attendre quelques années pour que les thèses de Brousson donc soient mises en application. Et en effet, quelques années plus tard, au début du siècle suivant, cela donnera lieu justement à la révolte armée dans les Cévennes. À Bordeaux, la confrontation entre huguenots et armés déjà à ce moment-là, et soldats du roi, tourne au massacre et conduit à une terrible répression de la part des troupes royales. Claude Brousson est obligé de s'enfuir. Il se réfugie en Hollande. Et là, il va comparer les protestants à Israël. À Israël persécuté, Israël à la fois en Égypte et à Israël sous l'exil de Babylone. Donc, comme préparation de l'édit de Nantes, de la révocation de l'édit de Nantes, nous avons vu que l'année 85 avait vu des dragonnades, notamment en Béarn. Puis à nouveau en août, en Poitou, La Rochelle, l'île de Ré, en Normandie, en Guyenne et dans les Cévennes. La révocation d'édit de Nantes a été bien accueillie, n'est-ce pas, dans les pays d'Europe, dans les pays catholiques en particulier. C'est quelque chose qui a été bien vu forcément en Italie, où le pape a chaudement félicité le roi Soleil, n'est-ce pas, défenseur de la foi chrétienne, ce qui a un peu d'ailleurs atténué les rapports tendus entre Louis XIV et le pape pour cause de gallicanisme, comme on l'a vu la dernière fois. Maintenant, bien qu'officiellement il n'y ait plus de protestants dans le royaume, il faut très, très vite se rendre compte de l'évidence, c'est que les protestants continuent à exister. Ils existent, comme on le dit à cette époque-là, des opiniâtres. Et pour amener les opiniâtres à la raison, on emploie toutes sortes de mesures. Bien entendu, tout le monde n'assiste pas, ou du moins tout le monde ne se fait pas prendre aux assemblées du désert. Mais la plupart des gens pratiquent justement la devotio privata, la dévotion privée. On ferme soigneusement toutes les portes. On poste un enfant de garde avec un signal pour avertir si jamais les dragons arrivaient, et l'on sort de sa cachette la Bible, le père de famille l'ouvre et il fait le culte de famille, n'est-ce pas ? Bon, il est assez difficile, entre guillemets, de pincer des gens qui pratiquent ce genre de culte privé, à moins qu'ils ne soient dénoncés, bien évidemment, par des voisins malveillants qui en auraient eu vent. Mais on sait que ça existe. Et comme somme toute, il est difficile parfois de prendre les gens sur le fait parce que, eh bien, on a des subterfuges, n'est-ce pas? L'enfant signale que les dragons arrivent et quand les soldats arrivent, la maréchaussée arrive, eh bien, ils trouvent chacun vacant paisiblement à ses affaires, quoi. On cherche partout, on trouve pas de Bible, on trouve aucun livre de cantique, rien qui soit prohibé, etc. Qu'est-ce que vous voulez? On peut rien faire. On sait que ça se pratique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève les enfants. Ça, c'est la première mesure, les enlèvements d'enfants. Or, les enlèvements d'enfants vont avoir une conséquence imprévue pour le pouvoir royal. C'est que ces pratiques vont encourager les opiniâtres, comme on les appelle, à fuir le royaume à leurs risques et périls. Plutôt que de voir leurs enfants leur être enlevés, eh bien, ils préfèrent tenter le tout pour le tout et quitter le royaume. Et c'est ainsi que le royaume de France, malgré les interdictions royales, va connaître, dans les années qui vont suivre la révocation de l'édit de Nantes, pratiquement jusqu'à la veille de la Révolution française, une véritable hémorragie de protestants. Hémorragie qui aura des conséquences extrêmement graves pour l'économie française et pour la grandeur de la France, un peu comme l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 avait marqué le déclin de la puissance espagnole. Le processus est absolument comparable. Il y aura donc, sur 1 million de protestants que comptait le royaume de France avant la révocation de l'édit de Nantes, il y aura environ 200 000 défections, 200 000 protestants qui vont quitter le royaume, donc jusqu'à la moitié du 18e environ. C'est à Pâques 86 qu'on assiste aux premières rébellions de protestants. Nombre d'entre eux refusent de communier. Or, vous savez que Pâques, c'est le moment privilégié pour la piété catholique où on est obligé de communier. Faire ses Pâques, n'est-ce pas, c'est le minimum, n'est-ce pas? Celui qui veut être quand même considéré comme catholique doit faire ses Pâques. Mais les protestants refusent, un certain nombre d'entre eux, prétextant que la Bible, la messe n'est rien d'autre que la marque de la bête. Voyez-vous, la radicalisation des positions. C'est pas la marque de la bête, ça veut dire l'Église catholique et l'Antichrist, la prostituée, etc. Et donc participer à la messe, c'est prendre sur soi la marque de la bête. Alors, devant ces marques de rébellion, les évêques du Languedoc en particulier, les évêques du Midi, préconisent, rien moins, qu'une nouvelle croisade comme celle qui avait si bien marché contre les Albigeois au XIIe siècle. Et ils appellent une véritable croisade, à une véritable croisade, n'est-ce pas, le pape, les puissances protestantes. Bon, Louis XIV ne va pas jusque-là quand même, mais il va choisir, notamment pour le Languedoc, un intendant qui aura une poigne de fer, qui est le tristement célèbre Baville, dont nous aurons l'occasion de reparler, et qui est efficacement secondé dans son travail répressif par l'abbé Duchella de sinistre mémoire. Selon Baville, il y aurait 200 000 opiniâtres en Languedoc. Baville fait un recensement approximatif qu'il envoie au roi, et il estime à peu près à ce nombre-là le nombre des opiniâtres. Il est certain que le Languedoc peut en comprendre davantage encore. Je pense que Basville a sous-estimé le nombre. Et pendant toute cette période, une résistance souterraine dans cette région à forte densité protestante se manifeste, notamment par une véritable résistance passive. C'est ainsi que les fêtes populaires, qui sont un des éléments importants de la culture du Languedoc, eh bien, disparaissent presque complètement parce que les protestants les boudent. C'est une manière pour eux de protester. Et le fait du déclin des fêtes populaires en Cévennes et Languedoc pendant toute cette période est un signe du grand nombre de protestants. Puisque si les protestants n'avaient constitué qu'une minorité, les catholiques auraient pu continuer à faire fonctionner la machine sans eux. Mais non, la machine se grippe, n'est-ce pas ? Autre élément aussi à prendre en compte dans cette période-là, le nombre des prénoms bibliques qui sont donnés aux enfants. Ça ne trompe pas. C'est une manière aussi de résistance passive. C'est une manière de dire, eh bien voilà, nous restons fidèles à l'héritage, en quelque sorte. Et puis, les bibles clandestines qui circulent sous le manteau, que l'on cache soigneusement et que l'on étudie en secret. Et un des livres les plus lus pendant cette période, les plus étudiés en Languedoc, va être particulièrement le livre de l'Apocalypse. Pour des raisons évidentes. Les prophètes également, parce qu'on se considère effectivement dans une situation où l'on est persécuté par l'Antichrist. Et du point de vue des protestants de cette période-là, ça n'est pas bibliquement entièrement faux. Dans la mesure où, comme le dit l'apôtre Jean, il vient un antichrist, mais il y a déjà plusieurs antichrists qui étaient du milieu de nous sans être des nôtres. Et certain que l'Église catholique, à cette période-là, se conduisait manifestement d'une manière antichristique. Et les protestants avaient quelques raisons, n'est-ce pas, de voir effectivement dans cette puissance catholique qui les persécutait une forme de l'antichrist, à laquelle il fallait résister. Et c'est dès la première année qui suit la révocation des Nantes, c'est-à-dire en 1686, que dans les Cévennes, se lèvent les premiers prédicants. Qu'est-ce que c'est que les prédicants? Des laïcs, comme on disait à cette époque-là, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de formation théologique et qui vont occuper le rôle de leader, si vous voulez, spirituel du peuple privé de ses pasteurs, puisque les pasteurs donc ont fui, ont été chassés. Et précisément, Louis XIV pensait, n'est-ce pas, en bon catholique qu'il était, que si l'on privait le protestantisme de son clergé, eh bien, automatiquement, décapité, il allait mourir. Et il n'avait pas prévu, parce qu'il ignorait, c'est pas la notion protestante du ministère, que du sein du peuple, Dieu pouvait susciter, n'est-ce pas, des leaders au peuple. Et c'est ce qui va se passer. Des hommes, des femmes aussi, d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus discutable, sans instruction, vont se lever et vont haranguer le peuple, vont rassembler le peuple, l'haranguer, bien entendu, on n'ose pas, comment dirais-je, donner la Sainte Cène pour l'heure, ça viendra plus tard. On n'ose pas non plus pratiquer de baptême, mais comme le culte protestant est essentiellement un culte centré autour de la parole, eh bien, c'est ce qui se produit. Alors, une assemblée du désert, comme on l'appelle, c'est une assemblée, n'est-ce pas, qui se rend d'abord dans un lieu désert. Nous aurons l'occasion d'en voir plusieurs exemples. Les grandes assemblées du désert du Poitou, par exemple, de la fin du siècle. C'est quelque chose qui circule de bouche à oreille, tel jour, à telle heure, n'est-ce pas, à tel endroit, il y aura une assemblée secrète. Et l'on s'y rend, bien entendu, de nuit. C'est toujours de nuit que ça se tient. Avec des lentes tempêtes, de sorte que l'on ne puisse pas se reconnaître. Et puis, quand tout le monde est assemblé, eh bien, différents prédicants interviennent. Un intervient pour mener la réunion, ça veut dire conduire les chants. Un autre intervient pour faire les lectures bibliques, essentiellement tirer des psaumes, évangiles, beaucoup les psaumes. D'ailleurs, certains Nouveaux Testaments sont accompagnés des psaumes. Et puis ensuite, le plus doué d'entre eux, celui qui est capable de le faire, n'est-ce pas, prêche la parole. Et puis quand c'est terminé, on prie, n'est-ce pas ? Différents prédicants conduisent les prières, donc c'est quelque chose qui se fait en équipe, si vous voulez. Et puis la bénédiction finale permet à chacun de rentrer chez soi, ni vu ni connu en principe. Et même si des dragons du roi, des envoyés du roi, des espions ou même des voisins mal intentionnés sont dans la foule, que vous voulez, la nuit, tous les chats sont gris, n'est-ce pas ? On ne peut pas reconnaître le visage des uns et des autres, on ne peut pas savoir qui est qui n'est pas. Alors c'est le désert. Désert parce que c'est un lieu désert d'abord, surtout en Cévennes, mais désert pour une autre raison, parce que c'est une réalité spirituelle. Le peuple d'Israël avait passé 40 ans dans le désert, en route vers la terre promise. Et Brousson, nous l'avons vu, avait été le premier à faire le parallèle entre le peuple protestant persécuté et le peuple d'Israël. Le désert aussi parce que dans le livre du prophète Osée, il est dit « Eh bien, c'est pourquoi je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. » Et c'est un des thèmes des prédications des prédicants. Les prédicants disent ceci. En gros, « Mes frères, Ce qui se passe, la terrible persécution à laquelle nous sommes confrontés, c'est le juste châtiment de Dieu pour nos péchés. Nous avons été tièdes, nous avons négligé nos devoirs spirituels, ce qui n'est pas sans fondement. Nous l'avons vu dans les années qui avaient précédé l'édit de Nantes, c'est vrai qu'il y avait un relâchement spirituel. Et disent les prédicants, le Seigneur a permis cette terrible épreuve pour que nous nous reprenions, pour que nous nous ressaisissions. Et de la même manière que le peuple d'Israël qui était allé vers les Baals et les Astartés, et quand les prédicants parlaient des Baals et des Astartés, n'est-ce pas, de la prostitution spirituelle de que dénonçait le prophète Osée, ils parlaient de choses très concrètes. Il y avait pratiquement ici des gens qui avaient plié les genoux devant les Baals, ça veut dire qu'ils étaient allés se prosterner devant les idoles, ceux qui avaient subi les dragonnades, ceux qui avaient eu leurs enfants enlevés ou menacent d'avoir leurs enfants enlevés, qui étaient allés faire allégeance à l'Église catholique. Pour eux, c'était ça, c'était une prostitution spirituelle, c'était être allé se prosterner devant les Baals et les Astartés. Alors, de la même manière que le peuple d'Israël s'était prostitué après les dieux étrangers, eh bien, nous aussi, nous nous sommes prostitués. Alors Dieu avait dit, le prophète Osée, je l'attirerai au désert. C'est-à-dire le désert, temps d'épreuve, sera un temps d'épuration pour une nouvelle période de fiançailles. Alors disaient les prédicateurs, les prédicants, il faut que nous nous repentions de nos péchés. Et quand nous sommes repentis de nos péchés, eh bien, Dieu enlèvera l'épreuve. Hein? C'était une attitude assez remarquable, assez admirable, assez belle. Enfin, ce n'est pas de révolte, mais simplement une soumission à la volonté de Dieu. Alors, c'est pourquoi on appelait ces assemblées les assemblées du désert. Les assemblées qui étaient l'épreuve, n'est-ce pas? Parce qu'il est écrit, je l'attirerai au désert. Et puis, il y avait un troisième texte qui était sous-jacent, n'est-ce pas, à cette notion des assemblées du désert. C'était le texte de l'Apocalypse, où il est question de la femme qui est poursuivie par le dragon, vous vous souvenez, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, et qui s'enfuit au désert pour y être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, donc non plus cette fois-ci comme une épreuve, mais comme une protection. Et puis aussi, il y avait, n'est-ce pas, l'image de la foule qui suivait Jésus au désert, hein, pour y être nourrie par lui, avec les pains et les poissons qui se multipliaient. Et c'est pourquoi le désert, c'était tout ça, dans la pensée des Huguenots, n'est-ce pas, de la période qui a suivi la révocation de l'édit de Nantes. Alors, il y a aussi de nombreux réfugiés qui viennent en Languedoc à cette période-là. Très vite, les prédicants se rendent compte qu'ils sont les plus vulnérables, bien entendu. Le prédicant, il a un endroit visible. Il est éclairé quand même, on est obligé de l'éclairer par des lanternes, et il risque la mort. Tous ceux qui interviennent risquent la mort. Hein, celui qui fait chanter, celui qui lit les psaumes, celui qui dirige les prières, risque la mort, il n'y a pas de problème. Et très vite, on comprend qu'il faut protéger le prédicant. Et autour de la chaire portative, que l'on monte en hâte, et que chaque ancien a un morceau, n'est-ce pas? C'est des chairs qui s'assemblent. Eh bien, on poste une garde d'hommes armés qui, au besoin, n'est-ce pas, vont défendre le prédicant. Il est inutile de dire que résistance à main armée, en face de l'autorité, dans des conditions de ce type-là, ça vous conduit aussi au bûcher ou à la roue, exactement comme le prédicant. Mais enfin, ça permet éventuellement au prédicant de fuir et d'échapper ainsi à son destin. Maintenant, il y a un autre thème de la prédication du désert qui revient constamment, c'est ce thème de la captivité babylonienne de l'Église. De la même manière que le peuple d'Israël avait été captif 70 ans à Babylone, et certains vont dire que dans 70 ans, n'est-ce pas, la liberté de culte sera rétablie, ce qui ne sera pas le cas. Enfin, mais les prédicants invitent, disent, sortez de Babylone, ça veut dire Babylone, c'est la grande prostituée. Babylone, c'est donc l'Église catholique. Eh bien, vous êtes rentré de force dans l'Église catholique. Eh bien, sortez de Babylone. Sortez de cet exil spirituel pour revenir à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'il s'élève contre les abjurations. Jusqu'en 1689, c'est Claude Brousson, l'avocat de Toulouse, n'est-ce pas, qui est l'âne de la révolte. Maintenant, les protestants et Brousson notamment voit un éventuel libérateur possible. Brusson, notamment, qui est en Hollande, voit dans Guillaume d'Orange, prince d'Orange, n'est-ce pas, prince protestant, un éventuel Judas Maccabée qui viendrait délivrer les protestants. Et le thème, n'est-ce pas, de la révolte des Maccabées va devenir aussi un des éléments déterminants, n'est-ce pas, de la résistance huguenote pendant toute cette période. Et c'est elle notamment qui conduira à l'insurrection armée. Car les huguenots, les juifs de l'époque de Judas Maccabée avaient pris les armes. Et Dieu les avait bénis, Dieu les avait délivrés. Et on estime, n'est-ce pas, que le prince d'Orange, d'ailleurs Brusson l'appelle Judas Guillaume d'Orange, par assimilation avec Judas Maccabée, eh bien qu'il pourra prendre éventuellement la tête de cette révolte qu'on prépare en secret. Brusson, lui, n'encourage pas d'aller jusque-là. C'est un pacifiste et il préconise une résistance non violente, mais une résistance quand même. Et ce premier acte de résistance que Brusson envisage, c'est la publication d'un jour de deuil et de repentance pour la communauté protestante de France, dans l'esprit de ce que j'ai dit il y a un instant, savoir ce qui nous arrive est juste, c'est le juste jugement de Dieu pour nos péchés et pour nos apostasies. Par conséquent, il faut nous repentir. Et c'est lui, à cette occasion de cette journée de deuil et de repentance, qui emploie l'image de la femme au désert. Le but, et Brusson se rend bien compte qu'en fin de compte, n'est-ce pas, cet appel aboutira à une résistance armée, et déjà un certain nombre de gens pensent à prendre les armes, et il faudra attendre 1692 pour que le premier prédicant prennent des armes, il s'agira de Vivent, n'est-ce pas, qui surprit les armes à la main le 27 février 1692 et qui évidemment terminera sur la roue. Brusson, pour l'heure, préconise une résistance spirituelle, nous l'avons vu, et sur les conseils de Brusson, malgré des tentatives sporadiques de résistance armée, les habitants du Languedoc restent quoi ? C'est une mauvaise politique. Devant leur non-résistance, violente en tout cas, les forces royales font redoubler la persécution. En 1696, Brusson, qui est en Languedoc, qui est revenu en Languedoc, est capturé. Il parvient néanmoins à s'enfuir de nouveau, n'est-ce pas? Et il retourne en Hollande. Mais en Hollande, il ne tient pas. Il ne supporte pas d'être loin, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans la tourmente, qui sont dans la fournaise, alors que lui est à l'abri. Et quelque temps plus tard, il retourne en Languedoc, n'est-ce pas, pour animer, en quelque sorte, cette résistance qui s'y introduit là-bas. C'est le 28 mars 1698 qu'il revient en Languedoc. Il ne sera pas là longtemps, puisque en octobre de la même année, il est à nouveau capturé. Il est traduit devant l'intendant Baville, qui le condamne à mort. Et le 9 novembre de l'année 1698, il est roué vif sur la grande place de Nîmes, ce qui va alors provoquer des troubles extrêmement importants, car à nouveau, les protestants ont l'impression d'être décapités pour la deuxième fois, et au moment de l'exécution de Claude Brusson, eh bien, des troubles éclatent dans tout le Languedoc. La répression de Baville est sanglante, et il fait arrêter 70 meneurs qui sont à leur tour roués vifs ou pendus. Parmi ces 70-là, 5 femmes. Le pouvoir catholique s'imagine qu'il suffira d'attendre et que la deuxième génération, n'est-ce pas, sera composée de bons catholiques. C'était manifestement une erreur de calcul, car la deuxième génération va devenir encore plus huguenote que la précédente. La deuxième génération, c'est-à-dire qui sont encore des enfants et des jeunes à cette période-là, regarde sans comprendre ce qui se passe. Ils voient leurs parents qui leur enseignent la vérité, la droiture, le non parjure, la franchise, etc. Toutes les valeurs tirées de l'Évangile, qu'ils lisent pieusement, n'est-ce pas, soir après soir, dans les dévotions familiales secrètes. Ils voient ces mêmes parents qui leur ont enseigné ces choses aller le dimanche à l'église catholique, se prosterner devant les statues, faire les genuflexions qui sont prescrites, n'est-ce pas? Et ce sont ces mêmes parents qui ensuite leur disent, en rentrant de l'église, où ils les ont envoyés au catéchisme, se faire catéchiser comme les autres, n'est-ce pas? Ce sont ces mêmes parents qui leur disent tout ce qu'on vient de vous apprendre, là-bas, le curé, c'est sans valeur. Alors les enfants ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils voient leurs parents dans une forme d'hypocrisie qui les révolte. Et on cite des cas, n'est-ce pas? Ce sera notamment le cas de gens qui deviendront à la génération suivante les incarnations de la révolte armée, n'est-ce pas? D'enfants qui se révoltent dès leur plus jeune âge, 7 ans, 8 ans, l'âge du catéchisme, n'est-ce pas? Et qui refusent de communier, qui refusent de faire les prières demandées, n'est-ce pas? Alors le curé les bat, les traîne, n'est-ce pas? Ils se laissent faire, mais ils ne plient pas. Les enfants qui sont animés à cette époque-là d'une détermination, n'est-ce pas, qui est étonnante vu leur jeune âge. Hein. Ils sont les colibés de tous, n'est-ce pas, les de leurs camarades, mais ils ne plient pas. Et alors, ces enfants qui vont du monde devenir jeunes, ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr. Hein. La plupart, fait ce qu'on leur dit de faire, surtout que les parents les encouragent, disent quand même, fais un minimum, quoi. Mais ils le font avec une mauvaise conscience terrible. Et puis, quand ils entendent les prédicateurs, les prédicants au désert, leur parler de sortir de Babylone, etc., d'aller au désert et tout ça, alors c'est pour eux un dilemme de conscience terrible. Un petit peu comme les maranes d'ailleurs. Là aussi, on peut pousser à nouveau le parallèle. Et c'est cette génération-là qui arrivait à l'âge adulte, à l'âge d'homme, diront bien, nous n'acceptons plus le double jeu. Et pour pouvoir vivre notre foi, eh bien, s'il le faut, nous prendrons les armes. Et bien loin, justement, d'apaiser le problème, le calcul des catholiques et du pouvoir royal va se révéler complètement erroné. La deuxième génération va être celle, justement, qui va provoquer la révolte armée, qui va ainsi, donc, ensanglanter le royaume pendant si longtemps. En mai 1699, les prédicants les plus suspects s'enfuient. À la suite de l'exécution de Claude Bousson. Et, en quelque sorte, c'est une nouvelle étape qui s'achève. Parce que les prédicants étaient donc des hommes du peuple, mais qui, petit à petit, avaient acquis une certaine culture biblique. Hein. Ils s'enfuient. Donc, c'est à nouveau le drame pour la communauté protestante. Mais alors, le Seigneur a encore des réserves. Va commencer une troisième étape, celle des inspirés, les prophètes. Et ça va être toute l'épopée du prophétisme sévenol, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard, parce que nous allons revenir maintenant, si vous voulez, à cette période-là, dans les autres, comment dirais-je, dans les autres coins de la France. Et tout d'abord, si vous le voulez, sur l'évolution du catholicisme à cette période. Le catholicisme, qui est tout-puissant, n'est pas monolithique, loin s'en faut. Et notamment, il y a deux mouvements qui seraient prêts à rejoindre quelque peu le protestantisme. Le premier, c'est le quiétisme. Le quiétisme est un mouvement mystique, comme le catholicisme en secrète de temps en temps. Et le quiétisme a pour promoteur, si j'ose dire, une femme, Madame Guyon, n'est-ce pas, qui prône le repos en Dieu. L'âme doit se reposer en Dieu, comme un enfant sevré auprès de sa mère, n'est-ce pas? Il n'est même pas question de prier, il n'est même pas question de faire des exercices spirituels, tels par exemple ceux d'Ignace de Loyola ou des jésuites, mais d'être simplement dans la présence de Dieu, dans le calme et dans le repos, n'est-ce pas ? Sans rien dire, sans rien faire. Fénelon, l'évêque de Cambrai, la rejoindra comme leader du mouvement quiétiste français. Il y aura entre elle et Fénelon un échange de correspondance sur ces sujets spirituels-là. Mais le quiétisme français, le quiétisme n'est pas sans rappeler certaines tendances qui se manifestent outre-Manche, notamment chez les puritains anglais, n'est-ce pas, où on retrouve aussi cette idée, n'est-ce pas, d'un abandon à Dieu, dans le repos, n'est-ce pas, sans parole, sans rien, simplement la communion de Dieu. Bon, tout n'est pas faux, n'est-ce pas, dans cette approche. C'est vrai qu'il y a des moments pour cela. Mais, si vous voulez, ce qui se passe dans ce domaine, c'est ce qui se passe très souvent dans des mouvements mystiques du même ordre, c'est qu'on systématise les choses. Ça devient un système, ça devient une technique de communion avec le Seigneur. Et puis, comme c'est quand même une femme qui est le leader de cette affaire-là, il y a très vite, n'est-ce pas, une piété sentimentaliste féminine, n'est-ce pas, qui se manifeste. On voit d'ailleurs en cela aussi combien grande est la sagesse de Dieu quand le Seigneur dit de ne pas laisser les femmes enseigner, n'est-ce pas ? Parce que dans l'enseignement de la femme, il y a presque toujours cet élément, n'est-ce pas, de mièvrerie, de comment dirais-je, sentimentalisme à l'eau de rose, n'est-ce pas, qui se manifeste. On aura aussi le même phénomène un peu en Allemagne, n'est-ce pas, le quiétisme allemand avec ce qu'on appellera là-bas le piétisme alors, n'est-ce pas ? On voit ça au siècle suivant, par exemple avec Zinzendorf, n'est-ce pas, qui est influencé par l'Anguillon en fin de compte. Et alors, n'est-ce pas, à la fin de sa vie, Zinzendorf, qui était un grand, très grand homme de Dieu, mais qui était âgé, qui se laissait, bon, il avait par exemple le culte des petits pieds de Jésus, des choses comme ça. Oui. Bon, ça devient un peu grotesque. C'est la piété à la patte de Guimauve qui va marquer cette période-là, quoi. Hein. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième élément, n'est-ce pas, qui va rejoindre un peu le protestantisme, c'est le jansénisme, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, et que nous avons déjà un peu évoqué, qui est une redécouverte, en fin de compte, du salut par la foi, mais avec un accent très fort, n'est-ce pas, sur la prédestination. Dieu choisit pour le salut qu'il veut, et il choisit pour la perdition également qu'il veut. Alors, ces deux mouvements n'entreront pas en contact directement avec le protestantisme honni et banni, car alors ils auraient eux-mêmes été persécutés beaucoup plus qu'ils ne l'ont été, bien qu'ils l'aient déjà été, surtout le jansénisme, on aura l'occasion de le voir, n'est-ce pas ? Mais il y a certainement là une influence du protestantisme qui s'est exercée sur ces deux mouvements, même s'ils ne voulaient pas l'admettre, le reconnaître. Est-ce que le fait que Fénelon était, comme nous l'avons vu, directeur du palais royal, où était emprisonné notamment des jeunes filles d'origine protestante avec lesquelles il discutait beaucoup. Est-ce qu'il n'a pas finalement été lui aussi influencé à son insu, sans s'en rendre compte, par ces jeunes filles dont il admirait d'ailleurs, de son propre aveu, parfois la grande piété. Pour l'heure, les choses ne sont pas à l'apaisement, car Louis XIV non seulement fait régner la terreur dans son royaume, mais aussi dans les pays où il porte la guerre. Et l'on sait que Louis XIV est un grand guerrier, et c'est ainsi qu'il est amené en 1684, un an avant la révocation des Édits de Nantes, à s'emparer du Piémont. Et là, le Piémont, nous le savons, c'est le refuge des Vaudois. Vaudois, qui est un mouvement, nous l'avons vu, qui date du XIIe siècle, qui a survécu contre vents et marées, et qui, petit à petit, rejoint grosso modo la Réforme. Il y a eu une correspondance très étroite des leaders vaudois du Piémont avec Calvin, et Calvin les a convaincus peu ou prou, en fin de compte, des thèses de la Réforme. Si bien qu'on peut dire que les Vaudois finissent par rejoindre le mouvement de la Réforme, le grand mouvement de la Réforme du XVIe. Alors évidemment, quand il arrive dans le Piémont, eh bien l'année suivante, 1685, Louis XIV organise un massacre des Vaudois, un de plus. Enfin, comme si ces pauvres Vaudois n'en avaient pas suffisamment souffert. Et pour faire bonne mesure, au cas où quelques-uns auraient échappé, il utilise la bonne vieille méthode de la dragonnade qui avait si bien marché en Poitou et qui avait conduit à la révocation de l'édit de Nantes. Si bien que les Vaudois, après les massacres violents, sont dragonnés. C'est cette même année que le roi Louis XIV tombe malade. Certains protestants ne sont pas loin d'y voir un juste châtiment de Dieu, mais la plupart des protestants prient pour le rétablissement du roi. Ça paraît étonnant, n'est-ce pas, de voir les protestants, n'est-ce pas, dans une telle dévotion à leur roi, alors que le roi est celui qui les persécute. Mais il y a en cela deux raisons. La première, c'est que les protestants prennent à la lettre la parole de Dieu, n'est-ce pas, soumettez-vous aux autorités, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Priez pour ceux qui vous persécutent, alors ils le font de tout leur cœur. Ils prient de tout leur cœur dans les assemblées du désert, n'est-ce pas? C'est ce qui frappe d'ailleurs les espions du roi qui y sont, n'est-ce pas? C'est compris pour le rétablissement du roi. Et puis deuxièmement, il y a une autre raison pour laquelle les protestants, c'est pas une feinte, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose, c'est pas un acte d'hypocrisie de leur part du tout. C'est même pas, si vous voulez, une soumission à la parole de Dieu contre mauvaise fortune, bon cœur, comme la parole de Dieu dit de prier pour les autorités, ben je prie, Seigneur, bon. Ils ne se forcent pas à prier pour le roi, c'est spontané. Ils ont de l'estime, ils ont même de l'affection pour le roi. Ça paraît incroyable, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a cette conviction que le bon roi, comme il l'appelle, n'est pas au courant. Qu'il est mal conseillé, et qu'on lui dépeint des protestants une figure qui n'est pas juste. On les présente au roi comme des rebelles, on les présente comme des gens qui sont insoumis, etc. Mais si le roi voulait bien prendre la peine d'enquêter par lui-même, si nos chefs, nos représentants, disent les protestants, pouvaient aller s'expliquer de vive voix devant le roi, s'ils pouvaient avoir une entrevue avec lui, lui expliquer les choses vraiment, ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre leur foi, mais que pour tout le reste, ils sont prêts à une soumission absolue au roi. Ils sont prêts à mourir pour le roi, ils sont prêts à verser leur sang sur le champ de bataille si le roi le leur demande. Alors le roi, certainement, eh bien, rétablirait l'édit de Nantes, quoi. Ils vivent dans l'illusion la plus complète. S'imaginant pas qu'un seul instant que l'initiative vient de Louis XIV lui-même. Ils sont une bête noire, c'est vrai, les protestants, c'est Louvois. Louvois qui, lui, effectivement, règne pendant la maladie du roi et qui continue notamment à persécuter les malheureux vaudois. Et il y a un épisode particulièrement dramatique qui a été d'ailleurs représenté par des peintres, ça, où, sur l'ordre de Louvois, un certain nombre de vaudois qui ont été pris dans des assemblées secrètes sont amenés au sommet d'un ravin, n'est-ce pas? Et là, on leur donne le choix entre la conversion, c'est pas où on les précipite dans un ravin. Et plusieurs centaines de Vaudois, donc, préfèrent la mort plutôt que de se convertir. En cette même année-là, un premier prophète, c'est en 1691, que commencent les premières manifestations de l'esprit prophétique qui va secouer le Languedoc, avec justement Vivens, c'est pas, qui arrive en Languedoc cette même année-là, et qui a écrit un livre. Ce livre s'appelle, c'est tout un programme, « L'accomplissement des prophéties et la délivrance prochaine de l'Église ». C'est-à-dire qu'on a fait l'assimilation, toujours que la faute classique dans ce domaine-là, n'est-ce pas? L'Église a remplacé Israël. L'Église est le virus Israël, le véritable Israël. Donc toutes les prophéties de l'Ancien Testament s'appliquent à l'Église. Et l'Église, qu'est-ce que c'est l'Église? Ben, c'est eux, c'est les protestants. Mais pas l'Église catholique, bien évidemment. L'Église catholique, c'est la prostituée. Eux, ils sont l'épouse. Hein? Donc, on étudie les prophéties pour justement comprendre comment Dieu va intervenir pour délivrer son Israël fidèle. Et alors, donc, on calcule, en particulier à partir des nombres de Daniel, vous savez, prophétie de Daniel. Et dans ce livre, il est expliqué à partir des nombres de Daniel, n'est-ce pas, que nous arrivons à la fin, n'est-ce pas, des mystérieux, c'est la 70 semaines d'année, les chiffres, les 1335 jours du chapitre 12, n'est-ce pas, qui sont à prendre comme autant d'années, et qu'on arrive à la fin du règne de l'Antichrist. Que par conséquent, la délivrance de l'Église fidèle est proche. Et Vivens n'est pas à l'audace, n'est-ce pas, de donner alors des détails sur la manière dont ça va avoir lieu. Notamment, il y voit un signe de la vérité de ses prophéties en ce que le 11 août 1689, c'est-à-dire 2 ans avant que son livre ne soit publié, Guillaume d'Orange, prince de Nassau, a été statuaire de Hollande, n'est-ce pas, a été sacré roi d'Angleterre. Il est passé en Angleterre et il devient maintenant le roi d'Angleterre. Il joint à la couronne de Hollande la couronne d'Angleterre. C'est un coup dur pour Louis XIV. En effet, tant qu'il n'était que statuaire de la Hollande, Guillaume d'Orange pouvait mettre en péril les conquêtes du roi Louis XIV dans les Flandres. Mais il ne pouvait pas menacer l'hégémonie française sur l'Europe. À partir du moment où il devient roi d'Angleterre, qui est une des principales puissances d'Europe, qui plus est puissance protestante, eh bien, c'est presque un encerclement par le Nord qui se fait par l'intermédiaire de la France. Et si, il y a à l'intérieur de la France un peuple qui se révolte, un peuple protestant qui se révolte à main armée, qui tend la main à Guillaume d'Orange, qui tend la main à l'Angleterre et à la Hollande, qui tend la main également à la Suisse, à la Prusse en formation, eh bien, Louis XIV peut se trouver dans une situation extrêmement difficile. Et tel est le rêve, justement, des chefs protestants. Déjà, n'est-ce pas, depuis l'époque de Brousson, il y a des contacts avec la communauté protestante et puis Guillaume d'Orange. Et on se met à espérer que Guillaume d'Orange va voler au secours des protestants français s'ils se révoltent. D'ailleurs, ce sera toujours ce qui sera sous-jacent pendant la révolte des Cévennes. Qu'il va y avoir un débarquement anglais en France et qu'ainsi on va mettre fin au pouvoir de l'Antichrist, c'est-à-dire la papauté et ses sbires en la personne de Louis XIV en particulier. Là, on n'a plus du tout de respect pour Louis XIV, n'est-ce pas? C'est le petit peuple, mais là, les leaders huguenots sont lucides. Et ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie qui n'est pas idiote. Et le soulèvement n'est pas un soulèvement qui va être, comment dirais-je, un soulèvement du désespoir, mais qui a pris en compte aussi, n'est-ce pas, les réalités stratégiques de l'heure. Le rapport des forces, mais qui va évidemment ne pas tenir compte d'un élément, c'est que Guillaume d'Orange a fait certes des belles promesses aux Huguenots, qui ne tiendra pas. Qui ne tiendra pas parce que finalement, la raison d'État est la plus forte. Pour intervenir en France, Guillaume d'Orange ne l'aurait fait finalement que pour des raisons religieuses. Et c'était insuffisant. Et de la même manière qu'ils ont été abandonnés par les Anglais à La Rochelle, les protestants, les Huguenots, seront abandonnés dans les Cévennes par les Anglais de la même manière. On se contentera de quelques bonnes paroles, on les accueillera, ceux qui parviennent à s'enfuir, on les accueillera, ça n'y a pas de problème. Mais quant à intervenir militairement, alors ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Et là, on va laisser écraser la révolte sans intervenir en rien. Donc, Vivens calcule ceci. Le 11 août 89, date de couronnement de Guillaume d'Orange, marque la moitié de la 7e semaine de Daniel. Voyez-vous, le danger d'une interprétation des prophéties, hein. Ça, c'est, ici, c'est typique. Hein. Donc, en calculant 3 ans et demi, d'ailleurs, pourquoi? Parce que ça correspond aussi. Quand commence la 7e semaine de Daniel? La 7e semaine de Daniel commence le jour de la révocation du Dîner de Nantes, 85. Là, on a déjà passé 3 ans et demi, on est à 3 ans et demi de la révocation du Dîner de Nantes. Donc, on commence la 2e semaine. On calcule 3 ans et demi à partir du 11 août 85, et on peut dire, dans 3 ans et demi, l'Antichrist sera éliminé, la persécution prendra fin, et puis Israël sera rétabli. Ça veut dire qu'il n'y aura plus en Europe qu'un seul État, qui sera la République d'Israël, dit Vivens. Voyez-vous, la vision prophétique est la sienne. C'est tellement discutable que ça ne s'est pas accompli comme ça. Ça montre là le danger d'interprétation des prophéties à la lueur des événements de son temps. Il y a des coïncidences, c'est vrai, 3 ans après, 3 ans et demi après, Guillaume d'Orange a été couronné roi d'Angleterre, mais ça ne voulait rien dire prophétiquement. En mars 88, devant l'opiniâtreté, n'est-ce pas, de ces gens, Louis XIV est complètement désemparé. Et alors, il décide, se disant que finalement, il y a encore des protestants dans son pays, ce qui l'étonne d'ailleurs. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, Louis XIV a été mal informé. Le petit peuple protestant n'a pas tort, entièrement, du moins. C'est vrai que quand il a révoqué l'édit de Nantes, devant le nombre impressionnant d'abjurations qui lui étaient remises par Louvois à la suite des dragonnades, il s'est dit, mais il n'y a plus de protestants en France, une petite poignée. Et puis il s'est rendu compte que j'en étais rien. Et voilà notre bon roi Louis, très ennuyé. Parce que il n'arrive pas à subjuguer ces opiniâtres-là. Alors, que faire de ces gens-là? Une répression, ça ne marche pas. C'est vrai qu'il est en difficulté dans sa guerre, dans ses guerres, et que si ces gens-là se révoltent, un ennemi à l'intérieur, c'est presque encore pire qu'un ennemi à l'extérieur. Lui aussi, Louis XIV a fait le calcul qu'ont fait les chefs protestants. Si maintenant que Guillaume d'Orange arrive au pouvoir en Angleterre, si jamais il débarque sur le sol français, si jamais il vient en aide aux protestants, ça peut être très gênant pour la France. Alors, prévoyons ce qui va se passer, Louis XIV dit, bon, ben, autant qu'il s'en aille. Et en 88, il autorise, n'est-ce pas, l'émigration des protestants qui veulent rester protestants. Ce qu'il avait refusé de faire quelques années plus tôt, en 85. En mars 88, il ouvre les frontières. C'est la ruée. C'est par paquet entier que les protestants filent. Et ils partent essentiellement à cette époque-là en Amérique. Amérique du Nord. Et voyez-vous, pour eux, toujours l'imagerie biblique, n'est-ce pas ? L'Atlantique, c'est la mer Rouge. Et alors, ils traversent la mer Rouge pour trouver la terre promise. D'où cette idée qu'on trouve, n'est-ce pas, de l'Amérique comme terre promise. Et vous trouvez ça, par exemple, au XIXe siècle, avec Joseph Smith et les Mormons. Vous trouvez ça constamment, et même jusque dans aujourd'hui, dans l'inconscient collectif américain, les Américains ont un complexe de supériorité incroyable, ils ont l'impression d'être le peuple choisi. Même les chrétiens américains, n'est-ce pas, si quelque chose ne vient pas d'Amérique, c'est pas bon, parce qu'ils sont le peuple choisi. L'Amérique, c'est la terre promise. Ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de ce que tous les persécutés d'Europe... Eh bien, se sont retrouvés en Amérique avec cette notion que là, il y avait une nouvelle vie qui se commençait pour eux. Alors, on traverse la mer Rouge, l'Atlantique. C'était un petit peu plus large que la mer Rouge, quand même. Mais enfin, ça fait rien. Elle s'ouvre pas, miraculeusement. On traverse en bateau, mais on la traverse. Et on arrive en Amérique, justement, dans la terre promise. Alors, quand le roi voit ça, il comprend que là, il va vider son royaume. Alors, il stoppe, il bloque. Il bloque en 2 temps. Premièrement, les hommes ont le droit de partir, mais pas les femmes. Alors, vous voyez, un homme partir sans sa femme et ses enfants, quoi. Ou sans sa femme et ses filles, plus exactement, puisque les garçons ont le droit de partir. Bon, c'est déjà, donc, éliminer la majeure majorité des candidats au départ. Et malgré ça, n'est-ce pas, les protestants fuient quand même, en emmenant femmes et enfants clandestinement dans les bagages, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose qui inquiète le roi aussi, c'est que beaucoup de ces protestants-là, ils s'en vont en Hollande, non seulement en Amérique, mais en Hollande. Et en Hollande, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'engagent dans les armées de Guillaume d'Orange. Et ils vont combattre, n'est-ce pas, contre les troupes de Louis XIV. Alors Louis XIV veut bien se débarrasser de ses protestants, mais pas pour les trouver en face de lui, dans ces guerres. Alors il bloque. Il bloque à la fin de l'année, n'est-ce pas, pour empêcher justement cette hémorragie qui se manifeste dans son royaume. Alors, pour les protestants, c'est le désespoir. Il ne reste plus alors, finalement, que deux choses. Soit l'organisation d'une église clandestine structurée, comprenant d'ailleurs non seulement des cultes clandestins, le maintien de la foi et des actes, mais comprenant aussi justement des filières d'évasion clandestine pour ceux qui veulent partir pour le refuge, mais aussi les possibilités d'une révolte armée. Et alors il va y avoir deux grands centres qui vont prendre deux directions diamétralement opposées. Le nord, la France, Poitou, Normandie, etc. Poitou essentiellement, c'est-à-dire l'ouest en gros, quoi. L'ouest. Poitou, ça veut dire aussi la Bretagne, à cette période-là, sur le plan, si vous voulez, protestantisme, parce que le protestantisme breton est très lié au protestantisme poitevin. Poitevin, ça comprend aussi la Vendée. Hein. Et qui est en contact avec la Normandie, puisqu'on est juste voisins, quoi. Hein. Et puis, alors qu'ils vont prendre l'option résistance non-violente, et le Languedoc, Cévennes, Vivarais, Dauphiné, etc., qui lui va prendre l'option de la révolte armée. Et la prochaine fois, si vous voulez, on verra ces deux types de résistance.